C'est l'heure du journal avec vous, Clara Lecoq-Réal. Bonjour Clara.
Bonjour Hervé, bonjour à toutes et à tous. Le gouvernement doit retravailler son projet. La loi Avia contre la haine en ligne est largement censurée par le Conseil constitutionnel. La réponse législative aux propos haineux sur Internet n'est pas proportionnée, dit-il. Nous y reviendrons dans un instant.
Vous entendrez ensuite un des 150 citoyens tirés au sort pour participer à la Convention sur le climat. Plein d'espoir. Ils rendent leurs propositions au gouvernement.
Il y a les pros du télétravail et les autres qui en ont souffert pendant le confinement. Une étude le prouve aujourd'hui, alors que les syndicats et le patronat se réunissent pour mieux encadrer la méthode. Explication à suivre.
Et puis nous ferons un point sur les positions du groupe État islamique en Irak et en Syrie. Les djihadistes ont profité de la pandémie de Covid-19 pour renforcer leur capacité insurrectionnelle.
Après ce journal, Hervé, quelle sera la question du jour ?
Les concours sont-ils équitables ? Nicolas Charles, maître de conférence en sociologie à l'Université de Bordeaux, sera avec nous.
À partir de 7h12. C'est un coup d'arrêt pour le gouvernement. La loi Avia contre la haine en ligne a été quasiment intégralement censurée par le Conseil constitutionnel hier. Le texte avait été voté à l'Assemblée nationale il y a un mois. Il imposait un délai de 24 heures aux grandes plateformes Facebook, Twitter, pour retirer des propos considérés comme haineux. 24 heures sous peine d'amende pouvant aller jusqu'à 1 250 000 euros. Le gouvernement avait défendu ce texte malgré l'opposition farouche de nombreuses associations et de la droite au Sénat. Mais là, tout s'écroule, Maxime Tellier.
La quasi-totalité de la loi a été censurée par le Conseil constitutionnel qui invoque des risques d'atteinte à la liberté d'expression. C'est une grande victoire pour tous ceux qui s'opposaient à cette loi et notamment l'association La Quadrature du Net où Arthur Messot est juriste.
La décision du Conseil constitutionnel est une vraie victoire pour la liberté sur Internet. Il n'y a pas de nuance à mettre. Il reste pratiquement rien de la loi. Et en plus, cette loi a été censurée pour des bonnes raisons. La loi prévoyait des mesures de censure sans juge en 24 heures ou en une heure, des fois parfois. Et c'est tout ce principe-là qui a été rejeté. C'est que quand on veut agir dans l'urgence pour supprimer rapidement les choses, il faut un juge.
Et pour l'association, c'est toute l'approche du gouvernement vis-à-vis de la régulation d'Internet qui est rejetée. Une victoire aussi pour les sénateurs, les Républicains, sont eux qui avaient saisi le Conseil constitutionnel il y a un mois. Catherine Morin-Desailly est sénatrice LR, présidente de la Commission de la Culture.
Ce n'est pas en conférant aux plateformes le pouvoir d'ôter les contenus qu'on va y arriver. On leur donne un pouvoir inédit qui peut contraindre la liberté d'expression. En revanche, traiter du vrai sujet structurel qui est aujourd'hui le non-statut, la non-responsabilité de ces plateformes, ça c'est un vrai sujet.
Et l'idée de la sénatrice et d'autres associations serait de s'attaquer au modèle économique de ces plateformes qui poussent au clash et finalement à la haine en ligne pour faire grimper l'audience. Quant au gouvernement, il prend acte de la décision du Conseil constitutionnel et déclare étudier la possibilité de retravailler ce dispositif.
Là, le travail est loin d'être terminé, mais 150 propositions ont été faites. La Convention citoyenne sur le climat les adoptera dimanche, en tout cas une partie. Il s'agit de réduire dans 10 ans au moins 40% des émissions de gaz à effet de serre. Parmi les mesures avancées, citons la rénovation énergétique obligatoire des bâtiments d'ici 2040, l'interdiction du chauffage des terrasses, de l'éclairage des magasins la nuit, la taxation des produits ultra transformés à forte empreinte carbone ou encore le renfort du bonus sur les véhicules. En d'autres termes, il faut lier économie et écologie. Et c'est possible, selon l'un des citoyens participants que Véronique Rebérotte a interrogé.
Sylvain Burquier s'est forgé cette conviction au fur et à mesure des rendez-vous formateurs de la Convention citoyenne sur le climat. Les propositions formulées par les 150 citoyens dont il fait partie conduiront à une transition écologique prospère.
Toutes les mesures qu'on a proposées sont systémiques et vont aller dans tous les domaines. Et d'un point de vue économique, moi je suis persuadé que cette transition-là, d'une part, créera plus d'emplois qu'elle en détruira, et puis en plus que ça peut d'une certaine manière rendre vertueuses les sociétés. Je pense que toutes les entreprises ont intérêt à s'y mettre et on a plein de mesures d'accompagnement.
Certaines mesures très créatrices d'emplois pourraient être soumises à référendum. Sylvain Burquier.
On sent venir un référendum autour de la rénovation thermique des bâtiments. C'est un sujet fort et en sortie de crise, c'est clair que pour relancer un pays, c'est quelque chose de majeur. Là, on va passer à quelque chose qui va pouvoir être réalisé, mais ça pourrait être soumis aux Français dans le cadre d'un référendum. On le sent venir. La plupart des mesures sont partagées, en tout cas par toutes les 150 qui voteront ce week-end.
Sylvain Burquier et plus de 100 citoyens ont créé l'association Les 150 pour défendre leurs propositions quoi qu'il arrive.
Une proposition qui, après avoir été votée dimanche soir, c'est-à-dire après-demain, elles seront soumises au Parlement pour devenir des articles de loi ou, comme Véronique le disait, pourront faire l'objet d'un référendum. C'est Emmanuel Macron qui le décidera. Parmi les propositions faites encore par cette convention climat, notons aussi le développement du télétravail. Une méthode largement éprouvée ces derniers mois lors du confinement, l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail, l'ANCAT, a lancé à cette occasion une consultation pour recueillir le sentiment des salariés et des employeurs, publics et privés confondus. In fine, cela donne 8000 réponses et un bilan mitigé, Catherine Pétillon.
Face à cette situation de télétravail exceptionnel, les personnes qui ont répondu se divisent clairement en deux types, résume Ségolène Journoux, qui a coordonné cette consultation à l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail, l'ANACT. D'un côté, les 47% de personnes qui avaient déjà pratiqué le télétravail.
Plutôt une population masculine, plutôt encadrant, avec un environnement et du coup un équipement adapté à la pratique du télétravail. Et puis l'autre population qui étaient plutôt des non-managers, plutôt des petites structures et aussi le secteur public, des moins équipés en termes de logiciels et autres, et qui ont exprimé plus de difficultés à réaliser leur mission habituelle avec un sentiment de moindre efficacité. Donc l'écart entre ces deux populations, pour nous, ça veut bien dire que le télétravail, ça structure, ça s'apprend et ça s'anime. Et que pour les personnes qui ont dû agir de façon improvisée, ça a été plus difficile.
Quel temps va-t-on donner au télétravail? Qui pourra, à quel poste, avec quels moyens, dans quel lieu, à la maison ou ailleurs? Comment former les managers ou animer un collectif de travail? Voilà les questions qui désormais attendent les entreprises, souligne l'ANACT. Et cela d'autant plus que 88% de ceux qui ont expérimenté le télétravail souhaitent continuer, qu'ils aient eu ou non des difficultés. Les syndicats, eux, aimeraient un encadrement national et un nouvel accord interprofessionnel pour remplacer celui de 2005 qu'ils estiment caduc et inégalement appliqué. Leurs discussions avec les organisations patronales reprennent d'ailleurs aujourd'hui sur ce thème.
Une discussion organisée au ministère du Travail. Nous évoquions hier dans le journal de 18h les pressions hiérarchiques dénoncées par une ancienne procureure autour de l'affaire Fillon. Entendue lors d'une commission d'enquête, Eliane Houlette s'est émue du contrôle très étroit qu'aurait exercé le parquet général, son autorité tutelle directe dans la conduite des investigations. Il lui aurait notamment demandé une rapidité dans la transmission des informations. Eh bien, le parquet national financier nous a répondu, regrettant que ce qui est le fonctionnement régulier du ministère public soit assimilé à des pressions. Fin de citation.
7h07 sur France Culture, la suite de votre journal, Clara Lecoq-Réal, et Al-Qaïda au Maghreb islamique qui reconnaît la mort de son chef.
Oui, l'Algérien Abdelmalek Droukdal a bien été tué. La France s'en était félicitée au début du mois après une opération menée dans le nord du Mali. Autre terrain miné par les djihadistes, l'Irak et la Syrie. Le groupe État islamique a repris pied ces derniers mois, profitant de la pandémie du nouveau coronavirus, Omar Waman.
Dépourvu de territoire, Daesh n'en reste pas moins dangereux. L'Irak, berceau de l'organisation, connaît ces dernières semaines une intensification des attaques djihadistes. Jean-Charles Brizard, président du CAT, le centre d'analyse du terrorisme.
C'est plus qu'une résurgence, c'est-à-dire qu'effectivement, après leur défaite territoriale, cette organisation est redevenue clandestine, multiplie les opérations. On sait même qu'elle a retrouvé des capacités financières, c'est-à-dire qu'elle est capable de se livrer à de l'extorsion.
Même méthode, même stratégie et à terme, même objectif pour les djihadistes qui ont profité du vide sécuritaire créé par la pandémie et du retrait d'une partie des forces de la coalition internationale dirigée par les États-Unis.
Tout ça fait que progressivement on a affaibli effectivement nos capacités de répondre aux défis posés par l'État islamique.
Autre facteur qui tend à expliquer le retour en puissance de Daesh, la fuite ces derniers mois de nombreux terroristes des prisons et camps de fortune gardés par les forces kurdes dans le nord-est de la Syrie. Pierre-Jean Louisard, historien spécialiste des mouvements djihadistes.
Il semble qu'il s'agisse de centaines de prisonniers qui ont pu s'échapper et qui ont rejoint des cellules dormantes le long de la frontière syro-irakienne contrôlée par l'organisation terroriste.
Plusieurs pays de la région, comme la Jordanie, ont fait part de leur inquiétude et ont appelé l'Occident à ne pas baisser la garde.
C'était Omar Waman pour France Culture. L'annexion par Israël de certains pans de la Cisjordanie est une menace sans précédent pour le processus de paix. Voici les mots du chef de la diplomatie jordanienne. Il effectuait hier une visite surprise à Ramallah. L'annexion d'une partie de la Cisjordanie est aussi à la une d'une tribune publiée par Le Monde. Plusieurs personnalités françaises juives de différentes sensibilités l'ont signée, de Pierre Nora à Anne Sinclair en passant par Benjamin Stora et Daniel Cohn-Bendit. Pour l'ancien eurodéputé, l'annexion serait une mauvaise chose pour les Palestiniens, pour les Israéliens et pour les Juifs du monde entier. Écoutez.
Ça rend de plus en plus impossible la solution de deux États. Déjà depuis quelques années, ça devient de plus en plus compliqué. On ne voit pas les colons se retirer des territoires occupés. Et avec cette annexion, ça rend l'État palestinien pratiquement impossible et invivable. C'est construire un immense ghetto palestinien, troué comme du gruyère, avec peut-être un tunnel de relation avec Gaza. On ne voit pas comment les Palestiniens pourraient vivre dans cet espace-là.
Vous dites aussi c'est mauvais pour Israël.
Bah oui, parce que ça veut dire que plus vous annexez, plus il y a de Palestiniens qui vivront dans les territoires annexés et l'occupation, ça gangrène l'identité démocratique d'Israël. Amos Oz, David Grossman, tout le monde le dit, l'armée occupe un territoire et cette occupation coloniale n'est pas démocratique. Dans beaucoup de pays, aux États-Unis surtout, les communautés juives sont plus que divisées parce que les communautés juives n'acceptent plus cette fidélité sans arrière-pensée à Israël. Ils sont contre cette politique et donc ça rend de plus en plus difficile la relation entre une grande partie des Juifs de la diaspora et l'État d'Israël.
Des propos recueillis par Frédéric Mettezo. La Chine a formellement inculpé ce matin deux Canadiens pour espionnage. Ils sont détenus depuis décembre 2018 au nom de la sécurité nationale, accusés donc d'espionnage, accusés aussi d'avoir divulgué des secrets d'État. Une affaire qui empoisonne évidemment les relations diplomatiques entre Pékin et Ottawa. Revenons en France pour quelques mots de la météo de ce vendredi. Le ciel sera encore bien nuageux au nord de la Loire avec quelques fines averses de temps en temps. Le soleil en revanche va briller au sud. Ce matin il fait 14 degrés à Brest, 18 à Bordeaux, à Paris et à Lille, 19 degrés à Dijon et à Lyon, 23 degrés à Perpignan. Hervé, je vous le rends le micro pour le début des matins.
Bah, c'est quoi, je le prends, merci Clara Le Coq-Réal. On vous retrouve à 7h30 pour le rappel des titres. On se retrouve dans un court instant pour la question du jour. Les concours sont-ils équitables? On en discute dans quelques petites secondes.